Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Comme souvent en politique, il y a les discours et il y a les actes. Ainsi, à Hangzhou, en Chine, au sommet du G20, dans le communiqué final qui vient d'être publié, les 20 principales puissances mondiales réaffirment leur opposition à toute forme de protectionnisme en matière de commerce et d'investissement. La patronne du FMI, Christine Lagarde, va même plus loin en plaidant pour une meilleure communication sur les bienfaits du libre-échange afin, dit-elle, de combattre les attaques populistes. Dans les faits pourtant, le libre-échange a du plomb dans l'aile. La France demande la fin des négociations sur le TTIP, rendant encore plus improbable la conclusion de cet accord commercial entre l'Europe et les États-Unis. D'autant qu'aux États-Unis, justement, les candidats à la présidentielle, Donald Trump, mais aussi dans une moindre mesure Hillary Clinton, prennent leur distance avec le libre-échangisme, jusqu'à la très libérale Angleterre qui, avec le Brexit, semble avoir succombé au charme du protectionnisme. Comme le notait il y a quelques jours l'essayiste François Langlais dans une interview au Figaro, le besoin de protection s'est substitué au désir de liberté, et encore une fois, le monde anglo-saxon est à la pointe de la mode idéologique. Comme le libéralisme dans les années 80, dit-il, le protectionnisme est en train de se mondialiser. Alors le protectionnisme peut-il inverser la courbe de la mondialisation ? Eh bien, c'est la question que nous allons poser ce soir à nos deux invités. Jean-Marc Daniel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, professeur associé à l'ESCP Europe, membre de l'Institut de l'entreprise. Vous avez publié, je pense que c'est le dernier ouvrage en date, en février dernier, Valls Macron, le socialisme de l'excellence à la française, pour un manifeste feuillant, c'est aux éditions François Bourin. Pour discuter avec vous, François Ruffin, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, fondateur et rédacteur en chef du journal Fakir, également réalisateur. Votre documentaire « Merci, patron » est sorti cette année. Et en 2011, vous aviez publié aux éditions Les Liens qui libèrent « Leur grande trouille, journal intime de mes pulsions protectionnistes ». C'était donc il y a 5 ans, on était avant une élection présidentielle. Et dans ce livre, vous expliquiez notamment que c'était quelque chose d'assez compliqué finalement que de se revendiquer protectionniste. Il y avait une forme d'interdit moral. Est-ce que vous avez l'impression que 5 ans après, que c'est un petit peu plus facile à assumer comme terme ?
Ouais, c'est certain. Votre introduction, parce que le début de mon livre est exactement sur les mêmes déclarations post-crise au sommet du G20, mais également le MEDEF français, le MEDEF international et tout ça. Donc on se retrouve avec une reproduction des mêmes discours, mais pendant ce temps, il y a une opinion publique qui est en train de basculer, et on peut dire que la mondialisation maintenant est fatiguée, la globalisation est fatiguée dans le berceau, là où elle est née, c'est-à-dire a priori d'abord dans les pays anglo-saxons. Donc là, il y a quelque chose, il y a un vent qui, à mon avis, avait déjà commencé à tourner il y a 4-5 ans, et il y a un basculement qui s'opère, quoi.
Vous êtes d'accord pour dire qu'il y a un basculement, Jean-Marc Daniel ?
Non, je ne crois pas. Il y a effectivement des partis politiques qui sont des partis politiques protectionnistes. Ce qui est intéressant, c'est que le protectionnisme a été défendu traditionnellement et historiquement plutôt par l'extrême droite. L'extrême gauche historique, au nom de l'internationalisme, et se référait à Marx, qui avait défendu de façon assez ambigu, mais en fait, il avait quand même défendu le libre-échange dans un texte assez célèbre. Et maintenant, l'extrême-gauche est devenue effectivement protectionniste. Mais il y a deux éléments...
Il n'y a pas que l'extrême-gauche et l'extrême-droite. Aujourd'hui, par exemple, quand on parle de la question de la Grande-Bretagne, ce sont les conservateurs qui ont plaidé pour le Brexit. Le Brexit, on peut quand même y voir une forme de demande, de réponse, en tout cas, une demande de protection, de protectionnisme.
Non, je ne crois pas. D'ailleurs, quand vous regardez ce que dit le nouveau Premier ministre, aussi bien d'ailleurs que non pas Farage, qui représentait une forme d'extrême droite, mais Boris Johnson, leur discours c'était de quitter l'Union Européenne mais pas d'abandonner le libre-échange. Et au contraire, dans leur discours, il y a cette idée, notamment il y a tout un tas de gens qui sont partisans de ce qu'ils appellent l'anglosphère, c'est de développer encore davantage de libre-échange avec un certain nombre de pays qui sont des pays qui sont extérieurs à l'Union Européenne. Donc il n'y a pas l'idée de protectionniste. Et sur le plan académique, si vous voulez, au moment où Attac s'était lancé au nom de la taxe Tobin, avait mis avant le nom de Tobin avait réagi en disant mais les économistes sont libre-échangistes. C'est-à-dire même les économistes qui sont les plus proches des mouvements de gauche sont libre-échangistes. Paul Krugman est libre-échangiste et il dit qu'il y a un vrai danger protectionniste. La dernière remarque que je ferai sur ce retournement, c'est qu'effectivement Donald Trump a fait une campagne très protectionniste en s'appuyant sur une partie du patronat du nord des États-Unis qui est traditionnellement protectionniste. Il y a une tradition républicaine, contrairement à ce qu'on croit, qui est très protectionniste. C'est au 19e siècle, les républicains étaient protectionnistes. Mais par exemple, les dirigeants de l'automobile sont allés le voir, Marie Barat, qui est la directrice générale de General Motors, en disant si vous mettez les droits sur l'acier que vous voulez mettre, si vous augmentez le prix de l'acier à un niveau que vous voulez atteindre pour protéger la sidérurgie américaine, nous, on délocalisera l'industrie automobile, parce qu'on ne peut pas se permettre de payer l'acier à ce prix-là.
Alors, on va aller dans un court instant sur les effets supposés, attendus de mesures protectionnistes, mais également sur le libre-échange, puisqu'évidemment, on est là pour essayer de voir quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux choix politiques. Mais peut-être pour rester un instant, François Ruffin, sur la façon dont le protectionnisme est pris en charge par certains partis, notamment nationalistes. Alors attention, évidemment, être protectionniste, ça ne veut pas dire être nationaliste, mais on peut dire qu'en général, les partis nationalistes sont protectionnistes. Est-ce que cet attrait qu'il peut y avoir de la population pour des mesures protectionnistes, il n'est pas notamment lié au fait que dans le protectionnisme, on pense pas seulement à limiter la circulation des biens, mais également limiter la circulation des personnes. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là, c'est-à-dire de promouvoir le protectionnisme pour de mauvaises raisons?
Je pense qu'il y a tout un travail idéologique qui est fait par le patronat, par un certain nombre d'éditorialistes et tout ça, pour faire du protectionnisme qui n'est qu'un outil, ou du libre-échange, qui est un choix économique, en faire une valeur morale. C'est-à-dire que ouvrir son pays aux marchandises, c'est ouvrir son cœur au monde, quoi. Et donc, il y a tout un travail qui est fait en ce sens-là. Et je pense qu'il y a de la possibilité de distinguer les deux. Par rapport à ce qu'a dit Jean-Marc Daniel, d'abord, il y a rien dans l'histoire qui montre que le protectionnisme est nécessairement lié à l'extrême droite. Lincoln a été protectionniste, Roosevelt a été protectionniste, les taux, par exemple, des taxes douanières du temps de De Gaulle étaient 10 fois supérieurs à ce qu'ils sont aujourd'hui, et ça ne faisait pas de la France un pays fasciste, et de la même manière à ce moment-là pour l'Italie, ainsi de suite. Donc, ensuite, je pense qu'il faut, pour moi, le protectionnisme, ça n'est qu'un outil, c'est un moyen. C'est-à-dire, ce sont des taxes aux frontières, des comptes d'importation, des barrières douanières. Ce sont des moyens. Il y a 10 000 lignes tarifaires à l'OMC. On peut bricoler là-dessus. Au fond, le projet idéologique, le projet démiurgique, c'est le projet du libre-échange. Le libre-échange est un projet, en effet, révolutionnaire, en un certain sens, est un projet totalisant qui dit qu'il faut abattre les barrières douanières à l'échelle de la planète.
Donc ça veut dire, François Ruffin, que vous ne mettez pas le libre-échange et le protectionnisme sur le même plan au niveau idéologique, c'est-à-dire le protectionnisme, donc ce sont des outils, est-ce que ça veut dire que ça pourrait être compatible? C'est-à-dire qu'on pourrait être dans une phase de libre-échange avec des mesures protectionnistes.
Mais de toute façon, il faut regarder ça comme une graduation entre deux pôles, et je veux dire, le protectionnisme, ce n'est pas l'autarcie. Donc il faut regarder ça comme des nuances de gris entre les deux, avec un certain nombre de mesures qui peuvent être mises. Mais alors, je redis bien, le protectionnisme, c'est un outil dans une boîte à outils. C'est une condition nécessaire pour faire de la politique, parce que, à mon avis, le libre-échange interdit la politique. Aujourd'hui, mettre en place des mesures fiscales, sociales, environnementales et ainsi de suite en économie ouverte, c'est relever le coût du travail, donc ne plus être compétitif, donc il vaut mieux s'adapter, se moderniser, accepter la régression. On est dans ce cadre-là depuis 30 ans où finalement, il n'y a plus de politique. Donc c'est une condition nécessaire mais insuffisante pour qu'il y ait un retour du politique. Maintenant, ça ne détermine pas une finalité. La finalité, je l'ai dit, pour moi, c'est social, fiscal, environnemental. Et donc, ça veut dire que le projet, ça ne porte pas un projet qui serait nationaliste ou qui serait progressiste en soi. C'est un outil au service d'un projet. Donc, ça suffit pas. Mais je le redis, pour moi, le protectionnisme, établir des protections, ce qui s'est fait pendant des siècles, c'est du bricolage. Le projet démiurgique, un peu prométhéen, un peu fou, révolutionnaire, il est porté en effet par les libre-échangistes.
Ah, je passe la parole au révolutionnaire Jean-Marc Daniel.
Oui, alors trois remarques par rapport à ce qui vient d'être dit. Je crois que c'est important effectivement de rappeler que un certain nombre d'hommes politiques qui n'étaient pas d'extrême droite ni d'extrême gauche étaient effectivement protectionnistes. J'ai parlé des Républicains, on vient de parler de Lincoln, Grant et tous ces gens-là étaient protectionnistes. Ça veut dire que l'idée que le libre-échange et le MEDEF...
Raison de l'être à l'époque.
Non, ils n'avaient pas raison de l'être, mais ça veut dire que l'idée que libre-échange égale MEDEF, MEDEF égale libre-échange est une idée fausse. Dans tous les patronats du monde, il y a un certain nombre de gens qui se sentent menacés et qui préfèrent, plutôt que de moderniser leur industrie, plutôt que d'améliorer l'efficacité de leur processus de production, s'abriter derrière des frontières et des barrières douanières. La deuxième chose, c'est que par rapport à ces périodes-là, le protectionnisme ne peut pas prendre la même forme que des droits de douane et la même forme qu'il prenait au 19e ou au début du 20e siècle, parce qu'il n'y a plus de système monétaire international stable. C'est-à-dire qu'il y a des fluctuations permanentes de monnaie. Et donc, donc, les gens qui proposent des mesures protectionnistes proposent, alors, l'expression de bricolage n'est pas fausse, c'est-à-dire proposent effectivement des adaptations en permanence à la marge et des adaptations qui portent à la fois sur les prix, à la fois sur les normes et dont ils ne mesurent pas toujours les conséquences.
C'est ce qu'on appelle faire de la politique, Jean-Marc Daniel.
Oui, sauf que j'en reviens à l'idée de l'acier. Quand Bush a mis une surtaxe sur l'acier dans les années 2000 à la demande du patronat sidérurgiste, il a coulé General Motors, Chrysler et Ford. Et donc, lorsque Obama est arrivé, une des premières mesures qu'il a prises, c'est de laisser le prix de l'acier baisser de façon à ce que l'industrie automobile américaine puisse continuer à vivre. C'est-à-dire qu'une décision qui était censée protéger des gens, à protéger certains au détriment d'autres. Et donc, dans ces choix, il y a en général des choix qui sont des choix implicites dont les gens ne mesurent pas les effets.
Mais est-ce qu'on pourrait pas trouver autant d'exemples négatifs du côté du libre-échange en se disant, ben voilà, parce qu'on a libéré, justement, parce qu'on a voulu avoir une concurrence absolue sur tel domaine, ça s'est aussi traduit par des pertes d'emplois, par des secteurs qui se sont effondrés. Est-ce que le bilan, finalement, n'est pas identique d'un côté comme de l'autre ?
Non, parce que le libre-échange a comme conséquence naturelle, normale, et c'est son caractère révolutionnaire, entre guillemets, effectivement, de faire baisser les prix. Et faire baisser les prix, ça bénéficie aux consommateurs. C'est-à-dire, le protectionnisme, c'est le choix du producteur, le libre-échange, c'est le choix du consommateur. Or, le consommateur, c'est quand même la quintessence de l'être humain. Nous sommes là pour consommer. On ne produit que pour répondre aux besoins, aux attentes et aux volontés du consommateur.
Bon, François Ruffin, vous ne pensez pas au consommateur ? Vous pensez quoi ? Au producteur ? Le producteur, d'ailleurs, ça peut être l'entreprise, le chef d'entreprise, sont aussi les salariés qui travaillent pour l'entreprise. Oui, moi, c'est pour ça, en fait, finalement, que vous, en tout cas, vous êtes un partisan du protectionnisme, c'est d'abord parce que l'objectif, c'est la défense de l'emploi ?
Je m'ancre sur un terrain. Je suis d'abord journaliste, je suis reporter, j'habite Amiens en Picardie. Et quand Jean-Marc Daniel cite l'exemple de l'acier aux États-Unis, où il y aurait eu un effet contre-productif d'une intervention étatique, moi je vois tous les jours dans ma région l'effet direct de la non-intervention. C'est-à-dire, je peux les citer, on a eu Continental évidemment, enfin là on peut y passer la vie, on a eu Goodyear, on a eu les chips Flodor, on a eu Whirlpool, on a Tissage de Picardie, enfin... On a Delcé, on a eu tout ça, le textile qui se barre, la métallurgie qui se barre. Donc, je veux dire, la liste des effets du libre-échange, les effets concrets du libre-échange près de chez moi, je le mesure. Donc déjà, il y a en effet ça. Ensuite, je veux dire que quand on oppose le travailleur et le consommateur, il y a quelque chose qu'on oublie volontairement. Moi, je suis pas contre la Chine. Je suis contre les multinationales qui passent par la Chine pour diminuer leurs coûts de production. Et ces coûts de production, marginalement, ils bénéficient aux consommateurs, mais ils bénéficient aussi aux actionnaires. Le triplement de la part des dividendes par rapport à la valeur ajoutée, en gros, dans les débuts des années 80, il y avait 4% de la valeur ajoutée qui partait en dividendes. On est passé à 12%. C'est un effet de la mondialisation. Cette mondialisation, elle s'inscrit dans... Elle donne une force au capital contre le travail. Elle donne une force à tout ce qui est mobile. Ce qui est le plus mobile, ce sont les capitaux. Ensuite, ça peut être les entreprises. Par rapport à ce qui est moins mobile, ce sont les travailleurs. Donc ça participe au rapport de force. Ensuite, dire que le MEDEF n'est pas synonyme de libre-échange. Historiquement, c'est vrai que historiquement, il y a eu des patronats qui se... Mais il faut regarder la situation historique présente. Aujourd'hui, on a le MEDEF, et je dirais le MEDEF international, qui est partisan du libre-échange, parce qu'ils en tirent tous les jours des avantages. Quand on interpelle Bernard Arnault en Assemblée Générale des Actionnaires de LVMH, parce qu'il fait partir une entreprise du nord de la France pour aller en Pologne, puis de Pologne pour aller en Bulgarie, parce que c'est encore moins cher, c'est l'objet de mon film en effet, et bien qu'est-ce qu'il répond ? Il répond, moi j'y peux rien, c'est l'européanisation, c'est la mondialisation. Mais ça lui a donné une arme pour diminuer les coûts de production, et ça n'a pas contribué à faire baisser le prix des costumes dans les boutiques Kenzo.
Oui, à ça, il faut regarder les chiffres. C'est-à-dire, effectivement, il y a des entreprises qui disparaissent. Je ne peux pas contester la disparition d'un tissu industriel qui disparaît. Un exemple que l'on prend souvent à propos du Royaume-Uni, c'est qu'on dit que les mineurs se sont violemment opposés à Margaret Thatcher, et alors que les mineurs sont extrêmement passifs en ce moment. Ils sont passifs parce qu'il n'y a plus de mineurs au Royaume-Uni. C'est-à-dire que l'économie britannique est au plein emploi, l'économie britannique a reconverti son tissu productif, mais l'économie britannique a abandonné ce qui avait fait sa force au 19e siècle, qui était les charbonnages. Et donc, toute l'économie est dynamique. Quand on regarde, là, il y a des études qui ont été faites, notamment par la direction du Trésor en France, dans la partie direction de la prévision, sur Quelles sont les raisons qui expliquent la disparition des emplois industriels, ces usines que l'on voit fermer, toutes ces friches industrielles que l'on voit apparaître? L'essentiel, c'est les gains de productivité. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est la robotisation. L'essentiel, c'est le progrès technique. C'est-à-dire, il y a une raison qui est la mondialisation, parce que ça fait une pression concurrentielle. Mais face à cette pression concurrentielle, les entreprises répondent par de la mécanisation, par du progrès technique. Et donc, ce qui va supprimer des emplois, ce qui va assurer la mutation du tissu industriel, c'est le progrès technique. Et donc, le protectionnisme, c'est une façon d'essayer d'arrêter le temps. Le libre-échange, c'est une façon de dire, il y a une dynamique, on accepte cette dynamique. Et l'enjeu, c'est pas d'arrêter le temps, mais de faire en sorte que les ouvriers qui travaillaient pour Continental, tous ces ouvriers qui travaillaient dans l'industrie en Picardie, trouvent un nouvel emploi, mais pas forcément, ad vitam aeternam, l'emploi qu'ils avaient quand ils sont rentrés à 20 ans sur le marché du travail.
François Ruffin, vous avez cité au début de votre précédente intervention un certain nombre de cas d'impact négatif pour l'emploi en Picardie des effets du libre-échange. Est-ce qu'à contrario, vous avez d'autres exemples qui vous donne la certitude que quand on prend des mesures protectionnistes, ça peut être donc mettre des barrières douanières, mettre des quotas d'importation, par exemple, sur certains produits. Là, ça permet d'assurer à des activités une forme de pérennité. C'est-à-dire pas juste les sauver pour 6 mois, mais les sauver un peu sur la longueur.
Mais je voudrais répondre à Jean-Marie Daniel. Quand il dit, voilà, ce sont les gains de productivité, il cite Continental. Et Continental, la disparition de Continental, ce ne sont pas les gains de productivité, c'est une pure délocalisation vers la Roumanie. Pourquoi ? Pour que l'actionnaire puisse en avoir davantage. Et c'est tout. Et je veux dire que là, on a un problème, c'est que ceux qui sont frappés par cette mondialisation, qui ne sont pas ceux qui décident de la politique commerciale. Ceux qui décident aujourd'hui de la politique commerciale et ceux qui viennent en discuter éventuellement dans les journaux, dans les radios et ainsi de suite, ne sont pas représentés. Et on a là, donc ce sont les classes populaires, ce sont les ouvriers non qualifiés dont on vient leur dire, bah, vous aviez un boulot et comptez pas le garder pendant 20 ans, quoi. Bah, ça, cette politique-là, qui dure depuis 30 ans, elle nous amène le Front National au deuxième tour directement pour 2017. Voilà, et je trace un trait d'union entre le propos de Jean-Marc Daniel précédent et le fait que Marine Le Pen soit à 42% dans ma région, la Picardie, et qu'on sache d'emblée qu'elle est au deuxième tour de l'élection présidentielle l'année prochaine. Et ça me paraît une situation catastrophique. Et c'est vrai qu'en réponse à ça, ma réponse n'est pas de dire il faut être libre-échangiste et puis tout ça, c'est de dire d'abord j'étais protectionniste avant Marine Le Pen et je ne vais pas cesser de l'être parce qu'elle l'est devenue.
Mais peut-être que pour être convaincant, donc il faut peut-être quelques exemples vertueux de protectionnisme.
Je vais vous donner un exemple. J'ai bien du mal. Alors il y a par exemple l'entreprise, l'industrie du cycle qui a plus ou moins été préservée en Europe grâce à des mesures protectionnistes. Mais je vais vous donner un exemple qui est un exemple non français, puisque il n'y a pas de mesures protectionnistes claires qui sont prises. Je vais vous donner un exemple qui est un exemple camerounais. Au Cameroun, suite aux accords de Marrakech, qui donc libéralisent l'agriculture, il y a une disparition de ce qu'ils appellent le poulet bicyclette. Le poulet bicyclette, c'est le poulet produit par les petits paysans du coin et tout ça. On a 95% de la production qui disparaît. On a un ingénieur agronome à l'époque qui s'appelle Bernard Djonga, qui fait le tour des exploitations, qui voient, alors qu'il y a eu des fonds européens et tout ça qui ont été donnés pour qu'on construise des puits, et des ONG qui se sont déplacées, qui voient tout ça à l'abandon. Il n'y a plus de poulet qui est produit là-bas parce que tout est importé. C'est le poulet doux, c'est du poulet breton, du poulet brésilien et puis tout ça. Il mène cette enquête, il mobilise la population, il intervient en Suisse à l'OMC et il demande à ce qu'il y ait la possibilité d'un relèvement des taxes douanières sur le poulet au Cameroun. Il obtient ce droit de l'OMC. Il y a un relèvement très conséquent des taxes douanières sur le poulet. Eh bien, qu'est-ce qu'on a ? 5 ou 6 ans plus tard, on a un relèvement quasiment au niveau initial de la production de poulet au Cameroun. Donc voilà comment des mesures protectionnistes ont permis à une paysannerie du Sud de retrouver une autonomie.
J'avais même presque envie de prendre un autre exemple, Jean-Marc Daniel, même si celui-là mérite aussi que vous y répondiez. Mais je pensais par exemple à la Chine. La Chine, qui est la deuxième puissance économique mondiale aujourd'hui, a d'abord été une puissance qui, pour se développer, a pris des mesures de protectionnisme. Et c'est bien comme ça qu'elle a réussi justement à arriver à cette deuxième position. Donc on voit bien que les mesures protectionnistes, elles peuvent quand même être profitables, non ?
Non, parce que la Chine, si vous voulez, il y a 40 ans, Mao Tse-tung est mort. C'était l'époque où la Chine vivait dans la forme ultime de protectionnisme, qui était l'autarcie. Regardez à quel niveau de développement était arrivée la Chine après tout ce régime qui avait mis en place un système de développement fondé sur l'autarcie, sur le repli sur soi. En revanche, les pays qui se sont adaptés, les pays qui ont joué le jeu du commerce international se sont développés. On a parlé de la paysannerie. En ce moment, il y a une crise.
Vous en pensez quoi, Pablo? L'exemple que donne François Ruffin,
Je pense que, effectivement, est-ce que le paysan camerounais la vocation d'abord à rester tout le temps sur sa terre. On a quand même eu une évolution dans toutes les sociétés modernes avec une diminution de la paysannerie et une diminution de la population rurale. Cette idée que, encore une fois, il y a une espèce de gel de l'histoire et les gens qui faisaient du poulet doivent continuer à faire du poulet est une idée qui est une idée absolument conservatrice. Le deuxième élément, on a une crise du lait en ce moment. Dans cette crise du lait, quel est le pays que l'on montre du doigt? C'est la Nouvelle-Zélande, parce que la Nouvelle-Zélande actuelle produit 12 litres de lait par jour et par habitant. Pourquoi elle produit 12 litres de lait par jour et par habitant? Parce qu'il y a 30 ans, un premier ministre qui s'appelait David Lange, qui était un premier ministre travailliste, a supprimé toutes les subventions à l'agriculture et a supprimé les droits de douane sur l'agriculture en Nouvelle-Zélande. À l'époque, la Nouvelle-Zélande versait 4% de son PIB sous forme de subventions publiques à l'agriculture néo-zélandaise. Il a dit maintenant, vous allez vous moderniser, vous allez vous spécialiser, vous allez répondre aux besoins des consommateurs et vous allez immédiatement pouvoir trouver des débouchés. Sur cette crise du lait, dernière remarque. Une des raisons pour lesquelles il y a une crise du lait, c'est qu'il n'y a plus de quotas, avec comme conséquence que le prix du lait a baissé. Maintenant, le prix du lait dans un supermarché, ça vaut moins de 1 euro. Il y a 3 ans, ça valait 1,50 euro. On peut dire aux consommateurs qui n'arrêtent pas de dire « on est prêt à payer notre lait plus cher pour aider les paysans français, votre lait va augmenter », eh bien ils protesteront, parce qu'ils vont acheter leur lait maintenant au prix qui est entre 70 centimes et 1 euro.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Qu'on se le dise, apporter sa modeste contribution à la lutte contre le chômage s'avère possible tout simplement en faisant attention à ce que l'on met dans son caddie. Car derrière chaque marque de produit, il y a naturellement des emplois, localisés en France ou pas. Et l'application Guide Made in Emploi se propose justement de nous aider à faire des choix de consommation responsables au travers de son guide des produits classés en fonction de leur empreinte emploi en France. Et c'est très facile à utiliser, l'application les classant par catégorie, agroalimentaire, hygiène et beauté, cuisine, électroménager, maison, textile, sport, high-tech bien évidemment, et automobile et moto. En plus, l'application délivre des informations économiques et pratiques sur les industries en jeu et sur les marques. Bref, c'est vraiment très très bien fait.
Voilà, le guide Made in Emploi qui est une application qui permet d'être un consommateur responsable et de choisir des produits qui sont produits en France plutôt que de choisir des produits qui ont été importés. Vous évoquiez, Jean-Marc Daniel, finalement le choix qui peut être celui du consommateur de choisir plutôt du lait produit en France plutôt que du lait produit en Nouvelle-Zélande. Pourquoi ne pas faire confiance finalement, François Ruffin, aux consommateurs par rapport à ces questions et se dire, à partir du moment où on connaît les origine des produits, on va laisser le consommateur décider si il a envie d'être responsable ou pas, plutôt que de prendre des mesures qui sont des mesures un peu plus radicales, disons.
Je pense que il faut pas éliminer le citoyen au profit du consommateur. C'est-à-dire que finalement, il y a eu aucune conquête sociale dans notre pays qui est passée par le consommateur, qui est même passée par des boycotts. C'est passé par des lois. C'est pas la sécurité sociale, le travail du dimanche, le repos du dominical, ce genre de choses-là, la limitation du nombre d'heures par semaine, ça n'a pas été ce produit est fabriqué par des travailleurs qui travaillent 40 heures par semaine ou qui travaillent 50 heures par semaine. À un moment, il faut abandonner le cadre de l'individu et se demander qu'est-ce qu'on se fixe comme règle collective. Qu'est-ce qu'on souhaite faire ensemble. Et donc voilà, je pense que passer par le consommateur et s'en remettre à une démarche individuelle, en plus à un moment où on pousse son caddie, moi je fais mes courses chez Lidl par exemple, vous voyez, je veux dire, c'est un moment où on réfléchit malheureusement avec un porte-monnaie à la place du cerveau, surtout quand on a des moyens limités financièrement. Donc je crois pas du tout qu'il faille s'en remettre au consommateur. Il faut avoir la possibilité...
Tout le discours sur le Made in France, le patriotisme économique, là il va y avoir jeudi et vendredi à Reims, les assises du produit en France, où il y a d'ailleurs un certain nombre de candidats à la présidentielle aux primaires qui vont venir. Ça, c'est une façon de quoi de se défausser sur le consommateur.
On peut encourager ces démarches. Il ne s'agit pas de les décourager. On peut encourager ces démarches, mais ce n'est pas comme ça qu'on parviendra à transformer la société. C'est-à-dire, pour avoir la possibilité de refaire de la politique sur le terrain industriel, c'est avoir la possibilité de se demander où produire, comment produire, que produire. Et ça, ces questions-là sont interdites, pour moi, en régime de libre-échange.
Finalement, est-ce que c'est ça, Jean-Marc Daniel? Vous déniez aux politiques la possibilité d'intervenir dans la marche des activités économiques?
Non, je ne dis pas ça aux politiques, mais je leur refuse le droit de me dicter ma conduite. Je leur refuse le droit de me ponctionner mon pouvoir d'achat au nom d'un certain nombre de principes auxquels je n'adhère pas. La démarche qui consiste à dire chacun peut, à titre personnel, choisir entre du lait à 1,50€ fabriqué dans Massy Central et dans notre agriculture de montagne et du lait à 70 centimes d'euros qui arrive d'un certain nombre de pays de l'Union européenne. Ce choix-là, je pense qu'effectivement, il faut le mettre sur la table. Que le citoyen peut décider, effectivement, s'il considère que il doit être d'une certaine façon solidaire de ses compatriotes, mais lui dire tu vas être solidaire de, par nécessité, tu vas être obligé de sacrifier une partie de son pouvoir d'achat, parce que le protectionnisme c'est le sacrifice d'une partie du pouvoir d'achat, et d'une partie du pouvoir d'achat qui concerne les classes les plus défavorisées. Parce que quand on regarde le contenu en importation de la consommation des ménages, on s'aperçoit que les gens qui consomment le plus d'importations, ce sont les ménages les plus défavorisés. Et ceux qui consomment le plus de produits nationaux, ce sont les ménages les plus favorisés.
Vous avez dit quoi que si on augmente les droits de douane, les produits d'importation seront plus chers, donc ceux qui sont les plus défavorisés...
Ceux qui perdront plus cher, c'est les classes populaires. Vous avez un économiste célèbre aux États-Unis, Gregory Mankiw, qui dit les classes populaires vivent en yuan, la classe moyenne aux États-Unis vit en dollars et la classe supérieure vit en euros. C'est-à-dire que la classe supérieure, elle vit effectivement avec des produits de haute qualité qui arrivent d'Europe, mais la classe moyenne vit en dollars. Et ceux qui vivent en yuan, c'est les classes populaires. Walmart, qui est le magasin de référence aux États-Unis, a entre 70 et 80% des produits qu'il met en vente qui ont une composante chinoise et une composante chinoise majoritaire. Et donc, si on fait du protectionnisme, c'est eux qui vont être pénalisés. Et donc, je pense que le libre-échange, c'est un moyen fondamentalement de préserver ce pouvoir d'achat auquel nous tenons tous autour de cette table.
Bon, François Ruffin, avec le protectionnisme, vous allez rendre encore plus difficile les fins de mois des classes populaires.
Ouais. Une chose d'abord, vous dites que le citoyen doit pouvoir le décider. Oui, je souhaite que le citoyen puisse le décider, mais pas le consommateur. C'est-à-dire qu'en effet, le citoyen puisse décider de ce que va être la politique, notre politique commerciale. Est-ce qu'on souhaite des paysans près de chez nous ou est-ce qu'on souhaite du lait néo-zélandais et un vide dans nos milieux ruraux ? Que ça soit posé, après les modalités de décision politique, que ça soit posé lors d'un référendum, que ça soit posé lors d'élections avec des politiques commerciales clairement mises en avant, mais il y a d'autres modalités de décision politique que de laisser les gens pousser leur caddie dans le supermarché. C'est la première chose. Ensuite, les classes populaires, ce sont elles qui payent le prix de la mondialisation. Dire qu'elles en sont les grandes favorisées, aujourd'hui, quand on a des emplois, les professions non qualifiées qui sont avec un chômage à hauteur de 20%, c'est-à-dire à peu près 4 fois supérieur au cadre ou aux professions intermédiaires, voilà, ce sont elles qui morflent. Et elles le savent. Elles sont pas bêtes, elles le savent. Vous regardez les sondages sur le libre-échange, vous regardez le référendum de 2005 qui était un sondage grandeur nature sur la libre circulation des capitaux et des marchandises, y compris avec les pays tiers. Vous avez 80% des ouvriers qui sont hostiles au traité constitutionnel européen. Vous avez 71% des employés, 67% des chômeurs. Alors, ce sont des crétins qui votent contre leurs intérêts, ou au contraire, ce sont des gens qui ont bien conscience de leurs intérêts et que leurs intérêts, c'est en effet de permettre qu'il y ait à nouveau un taux d'emploi plus satisfaisant en France et qu'il ne soit pas mis en concurrence avec le travailleur roumain ou avec le travailleur chinois.
C'est vrai, Jean-Marc Daniel, si le libre-échange était si bénéfique, on devrait s'en rendre compte de manière plus importante. C'est quoi ? Ce sont les libre-échangistes qui ne savent pas communiquer ? Ouais, ou c'est le libre-échange qui n'est pas assez abouti ?
Non, je pense qu'il y a deux phénomènes, c'est ce que dit Madame Lagarde. C'est-à-dire que le libre-échange a du mal à faire valoir cette idée que c'est quand même la garantie du pouvoir d'achat, la garantie. C'est-à-dire, vous vous souvenez dans les campagnes...
Médiatiquement, on ne peut pas non plus dire qu'en tout cas les protectionnistes soient majoritaires dans les interventions.
Vous avez un discours, vous vous souvenez au moment où c'était sous la précédente présidence, Nicolas Sarkozy avait dit il faut faire une taxe sur les produits, il faut faire payer aux Chinois la pollution au travers d'une taxe. Bon. Sauf qu'il est assez vite facile de comprendre que ce n'est pas les Chinois qui vont payer, c'est le consommateur qui paiera cette taxe. Et donc il y a une présentation des choses qui consiste à ignorer en permanence que l'enjeu du protectionnisme, c'est une ponction sur le pouvoir d'achat. Alors là où je rejoindrai ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, on peut considérer qu'il y a un choix politique et on peut demander à la population est-ce que vous acceptez de sacrifier une partie de votre pouvoir d'achat pour permettre d'avoir un autre type d'organisation sociale. Mais il faut le poser clairement en ces termes-là. C'est-à-dire, il s'agit de sacrifier une partie de son pouvoir d'achat. La deuxième remarque que je ferai, je rebondirai sur une de vos réflexions du début de l'émission. C'est-à-dire que, on l'avait encore vu récemment aux élections en Allemagne, c'est-à-dire que le parti AfD, qui a fait au début une campagne sur une certaine forme forme de repli national sur la monnaie allemande, dans un pays qui, encore une fois, est un pays qui est en excédent extérieur. C'est un pays qui, effectivement, le plus gros excédent extérieur, c'est pas quelqu'un qui massacre de façon artificielle ses coûts, c'est quelqu'un qui a fait des gains de productivité. Le pays qui fait le plus d'excédent extérieur est un pays qui est au plein emploi. Le pays le plus ouvert sur le plan international est un pays qui est au plein emploi. Mais le discours de l'AFD s'est déporté d'un discours national sur le plan économique vers un discours national contre les mouvements de population. Et donc je crois que là aussi il y a une confusion chez un certain nombre de gens qui est l'idée que le libre-échange et la mondialisation, c'est cette liberté de circulation des gens que moi je trouve tout à fait estimable, mais qu'un certain nombre de gens trouvent insupportable.
Mais quand on est protectionniste, François Ruffin, est-ce qu'on est pour la liberté de circulation des personnes et pour un contrôle de la circulation des marchandises, ou bien est-ce que ça ne m'oblige pas, quand on est protectionniste, à être pour une restriction des deux, c'est-à-dire à la fois les marchandises et les personnes?
Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Vous avez la libre circulation des capitaux et des marchandises, y compris avec les pays tiers. C'est-à-dire que, d'après les textes européens, il faut que les capitaux qui sont aux Bahamas puissent venir tranquillement à Paris, repartir à Hong Kong, revenir à Londres et ainsi de suite. Est-ce que vous avez de la même manière la libre circulation des personnes? Vous ne l'avez pas aujourd'hui. Vous l'avez à l'intérieur de l'Union européenne, vous ne l'avez pas à l'extérieur. Donc venir dire que les partisans du protectionnisme seraient opposés à la libre circulation des personnes, mais on ne l'a pas aujourd'hui, cette libre circulation des personnes. En revanche, ce qu'on a aujourd'hui concrètement, c'est la libre circulation des capitaux et des marchandises. Et venir dire qu'on serait nationaliste, qu'on serait xénophobe ou ainsi de suite, parce qu'on imagine une taxe sur les pneumatiques en provenance de Thaïlande à hauteur de 18%, enfin c'est complètement délirant. C'est pas parce qu'on imagine de mettre une taxe sur les pneumatiques qu'on est contre une libre circulation des personnes, quoi, qui n'existe pas aujourd'hui.
Il y a un élément qu'on n'a peut-être pas abordé encore, c'est le niveau de mondialisation qu'on peut trouver dans un produit. J'ai retrouvé un texte que vous aviez écrit, Jean-Marc Daniel, justement, contre le protectionnisme, dans lequel vous expliquiez qu'en gros, je ne sais plus quel était d'ailleurs l'objet que vous preniez, mais c'était peut-être un smartphone, en tout cas dans un smartphone par exemple, qui est conçu en Californie, il y a des éléments qui viennent de Chine, qui peuvent venir du Japon, qui peuvent venir d'Europe, d'Afrique. En quoi est-ce que ça complique, d'après vous, en tout cas, ou ça rend impossible de prendre des mesures protectionnistes?
Parce que les mesures protectionnistes en question ne vont pas redistribuer en réalité la localisation des usines. En réalité, elles vont augmenter le coût global des produits. C'est-à-dire que les usines, elles se sont réparties en fonction d'un certain nombre d'avantages qu'offrent les différents territoires, l'attractivité relative des territoires. Et donc, en fait, si on met des droits de douane, on ne fait pas un arbitrage entre notre territoire et les autres, parce que notre territoire est un point de passage où les marchandises rentrent et les marchandises sortent. Dans l'exemple que je prenais, qui est effectivement les exemples célèbres des produits, des téléphones portables, en fait, quand on regarde le prix qui est affiché, est un prix qui est affiché dans le commerce extérieur chinois, puisqu'ils sont fabriqués en Chine, mais après, les Chinois sont obligés de rémunérer des brevets, de rémunérer du savoir-faire et tout ça, et le principal bénéficiaire, c'est le Japon. Et donc après le Japon, c'est l'Allemagne, parce que dans la liberté de circulation des capitaux, un certain nombre de la population bénéficie aussi de la liberté de circulation des capitaux. Quand vous regardez notre commerce extérieur est juste à l'équilibre, alors que l'ensemble de nos échanges sont juste à l'équilibre, alors que le commerce stricto sensu, le commerce d'échange de marchandises, est très très fortement déséquilibré. Pourquoi? Parce que nous exportons un certain savoir-faire financier, et nos banques sont à l'étranger, et donc ces mouvements de capitaux dont on parle sont aussi des mouvements de capitaux qui apportent de la richesse en France. Les gens qui travaillent dans une banque font un travail qui est tout aussi noble que les gens qui travaillent dans une usine de pneumatiques, et les gens qui travaillent dans une banque à l'heure actuelle rapportent de l'argent à la France, alors que les usines de pneumatiques, effectivement, sont plutôt en train de partir vers l'Asie.
Moi, je vous pose un peu la même question qu'à Jean-Marc Daniel. François Ruffin, est-ce que la mondialisation, finalement, n'est pas allée trop loin? Est-ce que la complexité des différents composants des produits qui manufacturés qu'on trouve aujourd'hui à l'échelle de la planète ne rend pas difficile un retour en arrière? Mais peut-être que vous parleriez pas de retour en arrière, d'ailleurs, je sais
non,
pas.
Non, pour moi, c'est pas un retour en arrière. Mais je le redis, pour moi, le protectionnisme, c'est un outil qui permet de faire du bricolage. Ça veut dire que je ne vais pas vous dire que de manière unilatérale, sur l'ensemble de 10 000 lignes tarifaires de l'OMC, qu'il s'agisse des vélos, des t-shirts, ou des éoliennes, il faut de la même manière passer les taxes aux frontières de 2% à hauteur de 20% ou à 50%. Non, il faut se demander quelle est la politique industrielle qu'on veut mener. Et la politique industrielle sur le plan défensif, quels emplois on veut préserver en effet sur notre territoire, mais qu'est-ce qu'on veut construire, qu'est-ce qu'on veut soutenir pour qu'on puisse le construire. Donc il s'agit de pouvoir, et donc je dirais pas que sur un iPhone ça va être simple de je vais pas dire ça de manière unilatérale sur l'ensemble de la production. Donc il faut savoir ce qu'on veut faire en termes de politique industrielle, et c'est quand même une expression qui a même été interdite quasiment par l'Union européenne. Poser la question de la politique industrielle. Que produire? Où produire? Comment produire? Donc voilà. Après, je suis assez amusé par l'exemple du smartphone, du téléphone portable, puisque on a eu le président chinois là qui faisait des déclarations à l'occasion du G20 sur le fait qu'il fallait pas de protectionnisme. Je sais pas si vous avez vu, la Chine, il y a une autre déclaration du président Xi Jinping. La Chine va apporter un plus grand soutien à ses entreprises high-tech, il déclare. Et en même temps, qu'est-ce qu'il décide de faire? Ils décident de dire qu'ils vont interdire le iPhone 6 en Chine. Pourquoi? Parce que le iPhone 6 aurait copié un produit local, et donc il faut laisser le marché au produit local. Donc là, on est dans un hyper-protectionnisme de la Chine. Et je les autorise à avoir cet hyper-protectionnisme. Mais comme dirait un député socialiste européen, Emmanuel Morel, l'Europe deviendra assez vite l'idiote du village planétaire. On est les idiots du village planétaire. Parce que, en effet, les États-Unis prennent un certain nombre de mesures protectionnistes d'ores et déjà, par exemple sur l'acier chinois, mais aussi la Chine. Hein. Bon, moi, je trouve ça normal qu'ils aient la possibilité de protéger leur industrie pour construire.
Tiens, puisque vous évoquez l'Europe, et pour terminer peut-être cette discussion entre vous deux, Jean-Marc Daniel et François Ruffin, je voudrais avoir votre avis sur une des décisions importantes de la semaine dernière qui a été prise par la Commission européenne, Bruxelles, qui a décidé de sanctionner Apple, 13 milliards d'euros pour sanctionner Apple qui a bénéficié d'avantages fiscaux accordés par l'Irlande. Et le gouvernement irlandais refuse en fait que cet argent lui revienne en disant « moi je préfère privilégier l'emploi plutôt que de toucher cette amende ». De votre point de vue, qui a raison dans cette affaire? Est-ce que c'est Bruxelles qui a raison de sanctionner de manière extrêmement forte une entreprise américaine, Jean-Marc Daniel? Ou bien est-ce que c'est Dublin qui a raison en proposant des facilités pour préserver l'emploi? Je ne sais pas très bien, en fait, qui est le plus protectionniste dans cette histoire.
Non. La position de la Commission européenne n'est pas du tout protectionniste et n'est pas fiscale. C'est-à-dire, il y a une interprétation où dans certains de nos commentaires qui disent « ah, ils ont fait de l'optimisation fiscale et donc ils sont fait rattraper par la Commission qui est contre l'optimisation fiscale ». C'est faux. Ce que dit la Commission, c'est que l'Irlande a été protectionniste dans la mesure où elle a consenti à une entreprise et une seule entreprise des avantages qui n'ont pas été admis pour les autres entreprises. Le libre-échange, c'est la concurrence, c'est que tout le monde joue de la même façon avec les mêmes règles du jeu. Ce que dit la Commission, c'est que il ne s'agit pas de revenir sur les taux d'imposition sur les sociétés en Irlande qui sont de 12,5%. Il ne s'agit pas de dire que l'Irlande récolte pas assez d'impôts. Il s'agit de dire que l'Irlande n'a pas à favoriser dans une logique la protectionniste une entreprise en particulier, de façon à ce que cette entreprise s'implante et crée des emplois de façon contractuelle sur le territoire dans lequel elle s'installe.
Et donc 13 milliards d'euros d'amende, c'est justifié.
C'est tout à fait justifié dans une logique de concurrence et de libre-échange.
François Ruffin.
Non, mais je suis tout à fait d'accord, en tout cas, avec l'analyse de Jean-Marc Daniel, qui est que, en effet, en tout cas, la Commission européenne a trouvé ce biais-là pour attaquer Apple. Mais je trouve que ça, c'est malin de la part de la Commission européenne, c'est-à-dire de passer par le biais de la concurrence pour pas avoir à finalement revenir sur son propre logiciel intellectuel.
On va être d'accord, voyez, ça se termine bien, donc, on est d'accord.
Mais, on ne sait pas très bien si elle le fait au nom quoi, au nom de la libre concurrence, au nom de la protection des intérêts des autres Européens.
Je pense qu'elle envoie un signal quand même, qui est un signal de dire on veut aller vers plus de justice fiscale, dirons-nous comme ça, plus d'égalité fiscale, mais elle le fait en trouvant des biais qui lui imposent pas de revenir sur ses propres dogmes, quoi, finalement. Mais je pense que ça pose la question quand même de qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, sur le terrain fiscal en régime de libre-échange. Puisque là, Jean-Marc Daniel, lui, donc, est parti et accepte l'optimisation fiscale qui fait qu'on a une course vers le bas des taux d'imposition des sociétés, puisque les sociétés peuvent partir en permanence. Donc, elles gagnent aussi. C'est un espèce de supermarché mondial où ces multinationales peuvent aller choisir où elles ont le coût du travail le moins cher, où elles ont le moins de normes environnementales et où elles sont le moins moins imposé. Ben, c'est vrai que je pense que le bricolage du protectionnisme est quelque chose qui permet de résoudre un peu ça.
Eh bien, merci à tous les deux d'avoir participé à cette discussion. François Ruffin et Jean-Marc Daniel. On peut retrouver les références de vos différents ouvrages, de vos films, en l'occurrence, et puis du journal que vous dirigez, François Ruffin, Fakir. Il y a aussi d'ailleurs Sociétal, dont vous êtes toujours le directeur de la rédaction,
hein,
Jean-Marc Daniel. Voilà, beaucoup de références en ce qui vous concerne, l'un et l'autre. Cette émission, vous pouvez la réécouter de manière illimitée. Vous pouvez la télécharger pendant un an, la suivre également chaque jour sur notre fil Twitter. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Mathilde Barbier, Cyril Baer, Isolte Sicard, émission réalisée par Anne-Laure Chanel avec à la prise de son Clément Daté. Demain, nous poserons la question suivante. Les musulmans français ont-ils besoin d'être représentés ?